Merci d'écouter RFI. Il est 11h en temps universel, midi à Paris.
Arthur Ponchelet.
À la une, au Bénin, 28 militaires ont été tués mercredi dans une attaque terroriste, la plus meurtrière depuis 2021. Les assaillants ont visé un site fortifié de l'opération Mirador à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. L'Algérie cherche à humilier la France. Les mots de Bruno Retailleau tout à l'heure. Le ministre français de l'Intérieur estime, je cite, qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. Des déclarations au lendemain de l'expulsion d'un influenceur franco-algérien vers Alger. Il a ensuite été renvoyé à Paris. Que lui reproche-t-on ? On fait le point dans ce journal. Et puis on vous emmène dans la plus grande cave sans alcool de France. Après des fêtes bien arrosées, on souffle un peu avec le Dry January. Et vous l'entendrez, les boissons sans alcool ont de plus en plus la cote. C'est l'attaque la plus meurtrière contre les forces de sécurité béninoises depuis 2021. Au moins 28 militaires ont été tués mercredi dans une attaque terroriste. Elle a visé une position des forces de défense et de sécurité du Bénin dans la zone dite du triple point à la frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina. Alexandra Branjon, que sait-on de ce qu'il s'est passé ?
Pour l'instant, pas de communiqué officiel, mais selon des sources sécuritaires, les soldats décédés appartenaient au dispositif de riposte antiterroriste Mirador. La position visée est un site fortifié de l'opération Mirador à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Selon nos informations, le site a été attaqué puis incendié. Des sources sécuritaires reconnaissent que le bilan est lourd. Jamais ce dispositif antiterroriste n'a perdu autant d'hommes dans une attaque depuis son déploiement dans le nord du pays. Après avoir été alertées, les forces armées ont riposté par voie aérienne et terrestre. Une quarantaine d'assaillants a pu être neutralisée. Les attaques dans le nord du pays ont augmenté ces dernières années. Elles sont attribuées par les autorités à des combattants djihadistes des groupes État islamique et Al-Qaïda venus des pays voisins.
Alexandra Branjon, l'actualité sur le continent. Ce sont aussi les mots de Mahamat Idriss Déby. Hier, le président tchadien est revenu sur l'attaque ayant visé le palais présidentiel la veille. Des individus mal intentionnés venus le vitrifier, selon le chef de l'État. Il parle d'une vaine tentative d'assassinat. Officiellement, l'attaque a fait 20 morts, dont 18 assaillants. La France doit rapatrier les djihadistes français emprisonnés en Syrie. Déclaration du chef de la diplomatie turque tout à l'heure. Il demande à Paris de les amener dans ses propres prisons et de les juger. Il accuse la France de ne pas prendre en compte la sécurité de la Turquie. Tension entre la France et la Turquie. Tension aussi entre la France et l'Algérie. Aujourd'hui, avec ces mots de Bruno Retailleau il y a quelques minutes, pour le ministre de l'Intérieur, l'Algérie cherche à humilier la France. Déclaration au lendemain d'un nouvel incident entre Paris et Alger. Un influenceur franco-algérien a été expulsé vers l'Algérie hier après-midi. Conséquence d'une vidéo de sa part appelant à la violence contre les opposants au régime algérien. Il a finalement été renvoyé en France dans la soirée. Bonjour Baptiste Coulon.
Bonjour à tous.
On démêle cette affaire avec vous. Déjà, qui est cet homme et que lui reproche-t-on exactement ?
Alors c'est un influenceur algérien de 59 ans, originaire de Montpellier, très actif sur TikTok, il se fait appeler Doualemne. La France l'a expulsé hier après-midi, en cause plusieurs de ses vidéos. Dans l'une d'elles, les autorités françaises lui reprochent, je cite, de mener un appel à la torture visant notamment un opposant au régime actuel en Algérie. Son titre de séjour lui est retiré, son expulsion est ordonnée alors qu'il devait être jugé dans quelques jours à Montpellier. Une expulsion précipitée, donc vivement critiquée par son avocat. Sauf qu'hier soir, vous le disiez Arthur, coup de théâtre, l'Algérie l'interdit de territoire. Nouvelle expulsion vers la France cette fois. Et depuis hier soir, eh bien, il est placé dans un centre de rétention administratif en région parisienne.
Baptiste, cet influenceur n'est pas le seul dans le viseur des autorités françaises.
Non, à minima, ce sont deux autres Algériens et une franco-algérienne qui ont été arrêtés ces derniers jours. Leur point commun, des vidéos appelant à des actes violents contre des opposants au régime algérien. Alors on ne sait pas si ces influenceurs ont un quelconque lien direct avec le régime. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que ce renvoi, cette expulsion est une étape de plus dans la crise diplomatique entre Paris et Alger. Hasni Abidi est le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
Le renvoi est administratif et consulaire, mais il intervient dans un contexte purement politique. Et je pense que pour Alger, le renvoi de cette personne, sans prendre contact avec les autorités de son pays d'origine, il intervient dans un contexte où presque les deux parties ne se parlent plus. D'où cette réponse de l'Algérie qui veut dire qu'on n'accepte pas le fait accompli, aucune décision prise d'une manière unilatérale.
Et de fait, les sujets de friction ne manquent pas. L'un d'eux remonte au mois de juillet de l'année dernière. Emmanuel Macron, le président français, prenait position en faveur de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, territoire revendiqué par le Front Polisario soutenu par Alger. Alger où certains mots du président français ne passent pas, l'Algérie se déshonore, disait-il lundi, cette fois concernant le sort de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien incarcéré en Algérie depuis la mi-novembre.
Baptiste Coulon du service France de RFI. L'actualité en France, ce sont aussi les tractations autour du budget. Elles se poursuivent entre le gouvernement de François Bayrou et les forces politiques. Ce matin, le Parti Socialiste demande à l'exécutif de suspendre la mesure phare de la réforme des retraites, celle du décalage de l'âge de départ à 64 ans. Suspension, oui, mais pour 6 mois seulement. Le temps, selon le chef des sénateurs socialistes, de renégocier la réforme. Nouvelle étape, nouveau rebondissement dans les négociations. Avant le discours de politique générale du Premier ministre, ce sera mardi prochain. La France qui s'offre une pause d'alcool en ce mois de janvier. Après une période de fêtes arrosées, c'est le Dry January. Et pour remplacer les vins, la bière et autres spiritueux, au fil des ans, des boissons sans alcool fleurissent dans les supermarchés. Des boissons qui rencontrent de plus en plus de consommateurs. Laurence Théo s'est rendu au bar Le Pan qui boit pour une dégustation 100% sans alcool. C'est le reportage français du jour.
Thomas tient son verre par le pied et fait tournoyer le vin, le hume, puis le bois.
On retrouve des sensations assez confuses parce qu'en fait il y a de l'astringence et en même temps vachement de légèreté à côté, donc on ne sait pas très bien sur quoi on jongle, mais toujours pas prêt. Mais en tout cas, je pense qu'on est clairement sur la bonne voie.
Ce vin rouge Merlot proposé à la dégustation par Andréa Douillard a une particularité.
Donc ce sont des vins qui sont désalcoolisés. Nous, chez Moderato, nous utilisons la méthode de distillation sous vide, c'est-à-dire qu'en fait on va faire chauffer les vins à basse température dans des cuves en inox sous vide, entre 30 et 35 degrés, ce qui va permettre de créer une évaporation de l'alcool et finir sur des produits sans alcool.
Cette fois, c'est un pétillant blanc sans alcool qui est versé dans les verres. Philippe, amateur de champagne.
C'est bien surprenant, il est bien sec, c'est très intéressant. Moi, j'ai arrêté de boire il y a 4 ans, par exemple. Donc, j'adore toujours, quand il y a un dîner festif, goûter chaque vin. Donc, et là, de trouver quelque chose de complètement différent, original, c'est pas palliatif, vous voyez, c'est différent. Donc, avec un autre objectif, je trouve ça vraiment celui-là, ce champagne-là. Enfin,
avec pas moins de 600 références, le Pan qui boit est la première cave entièrement sans alcool de France. À sa tête, un homme passionné et raffiné, Augustin Laborde. Il explique ce qui fait l'originalité de l'offre.
Vous avez d'un côté toutes les copies d'alcool sans alcool, donc évidemment les bières, les apéritifs, les vins, etc., qui cherchent à reproduire le plus possible l'alcool sans l'alcool. Et puis surtout à côté, c'est ce marché-là, cette demande-là que nous on soutient beaucoup et qu'on trouve très intéressante, des nouvelles boissons qui vont plus chercher à copier l'alcool, donc on va sortir un peu de notre référentiel alcoolisé, et donc ça va éviter de toujours comparer et donc potentiellement d'être déçu. Et avec ces boissons-là, qui n'ont rien à envier à des boissons vraiment très complexes et qui sont servies maintenant dans des étoilés, dans des très belles tables.
Et elle est là, la bonne idée, ne pas copier, mais proposer autre chose, une alternative à l'alcool. D'ailleurs, les abstinents ne sont pas les premiers clients.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la très très grande majorité de notre clientèle, donc à peu près 2/3, sont des personnes qui continuent à boire de l'alcool, mais qui vont chercher des alternatives de temps en temps. Donc c'est ceux que nous on va appeler en mauvais français des flexi-drinkers. Donc voilà, des personnes qui continuent à boire de l'alcool, mais qui vont chercher des alternatives et qui, lorsqu'elles cherchent des alternatives, justement, ne veulent pas être à l'eau plate ou autre. Donc veulent quelque chose de complexe pour adultes, raffinés, etc.
Et en ce jour de dégustation, le Pan qui boit ne désemplit pas. Si les consommateurs recherchent le plaisir de boire dans la sobriété, ils revendiquent aussi les bienfaits des boissons sans alcool sur la santé.
Reportage signé Laurence Théo, à consommer sans modération sur RFI.fr. Toujours en France, l'épidémie de grippe pèse sur les hôpitaux de l'Hexagone. Une flambée des cas plus intense que d'habitude. Résultat, la ministre de la Santé a déclenché le plan blanc pour 87 hôpitaux. Un dispositif qui permet de déprogrammer certaines opérations et de rappeler du personnel. Et puis, plus rien ne semble pouvoir arrêter Charlie Dalin. Le Havrais fait toujours la course en tête du Vendée Globe et il creuse encore un peu plus son avance sur Johan Richomme qui lui vient de subir une avarie de voile d'avant. On devrait connaître le dénouement de ce duel d'anthologie en début de semaine prochaine. Voilà pour le journal. Tout de suite, c'est Grand Reportage sur RFI.